Nous allons lire pour la dernière fois aujourd'hui cette parabole que nous trouvons dans le livre des Juges au chapitre 9e et qui nous a déjà occupé. Cette parabole de Jotham, le fils de Gédéon, le seul survivant de la famille, et qui parle aux gens de Sichem, verset 8. Et il dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Dans cette fin de semaine, nous avons donc eu à cœur de nous entretenir ensemble sur ce grand sujet, les arbres. Les arbres dans la parole de Dieu. Et comme vous le constatez, ici, Jotham emploie ce langage parabolique pour s'adresser aux gens de Sichem. Jésus l'a fait souvent, hein. Jésus a souvent parlé en parabole. Vous connaissez peut-être bien les paraboles des évangiles, les paraboles du Nouveau Testament, mais est-ce que vous connaissez un peu les paraboles de l'Ancien Testament? Il y en a plusieurs, dont celle-ci au sujet des arbres. Et alors, on apprend que dans le langage poétique, quand on parle en parabole, on peut dire bien des choses. On peut voir ici, et à travers tout ce que nous avons essayé de découvrir dans l'Écriture, que les arbres peuvent être comparés à des hommes. Du reste, quand Jésus a guéri l'aveugle qui a cherché auprès du Seigneur du secours, le Seigneur a opéré une guérison progressive et nous voyons que Jésus lui dit, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Hein. Il les voit comme des arbres qui marchent, qu'il dit. Voilà la première chose qu'il voit. Et puis, enfin, le Seigneur continue son œuvre et finalement, il voit tout distinctement. Mais donc, ici, dans la parabole, on voit que les arbres peuvent marcher, n'est-ce pas, dans le langage parabolique, puisqu'il est dit, les arbres partirent pour oindre un roi. Donc, des arbres qui partent, vous dites, enfin, on a déjà vu des arbres qui partent, mais oui, dans le langage parabolique, donc, les arbres peuvent marcher. Et puisque ça nous parle à nous, nous aussi, nous marchons. Hein, et qu'est-ce que nous faisons quand nous marchons? Quel roi est-ce que nous voudrions qui règne sur nous? Vous pourriez, il y aurait toutes sortes de choses à dire là encore. Hein. Quel est le roi que nous voudrions voir régner sur nous? Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que non seulement les arbres marchent, mais ils parlent. Les arbres peuvent parler parce qu'ils disent aux arbres et à l'olivier en particulier, règne sur nous. Donc les arbres marchent, les arbres parlent, et puis quand on a lu les psaumes, psaume 96 par exemple, il est dit que les arbres poussent des cris de joie, n'est-ce pas? Les arbres peuvent pousser des cris de joie dans le langage parabolique. Et puis dans le psaume 148 que nous avons lu, il est dit que les arbres louent l'Éternel, et il y avait plusieurs arbres aujourd'hui, et ici on a aussi pu louer l'Éternel, les arbres louent l'Éternel. Mais quand on arrive dans Ésaïe 55, il est dit que les arbres battent des mains. Les arbres ont des pieds, les arbres ont des mains dans la poésie. Et puis, on a vu aussi que les arbres, ils espèrent. Pour un arbre, il y a de l'espérance, de l'espoir. Donc, vous voyez, les arbres nous parlent de bien des manières. Les arbres ont été créés par Dieu et ont un message qui peut toucher nos cœurs. Mais hélas aussi, nous avons vu que les arbres peuvent être très agités. Dans le chapitre 7 du prophète Ésaïe, il est dit que un roi qui a eu peur, il était agité dans son cœur, il était agité comme les arbres de la forêt. Hein. Quand le vent souffle, les arbres peuvent être agités. Et nous aussi, nous pouvons nous agiter. Mais aussi, nous l'avons vu hier, spécialement peut-être à cause des pluies acides, les arbres peuvent pleurer. Les arbres pleurent. Bon, j'aurais pu parler des saules, hein, le saule qui pleure aussi, hein, qui nous parle justement des larmes des arbres. Et alors, l'olivier, donc, je vous en ai parlé hier, on a vu que l'olivier ne veut pas régner, mais on a vu tout ce que la parole nous apprend au sujet de l'olivier. J'aurais pu dire bien d'autres choses, c'est aussi les oliviers qui sont là pour témoigner dans le chapitre, dans un chapitre de Zacharie, au chapitre 4, il y a les deux oliviers, puis vous les retrouvez dans l'Apocalypse. Les oliviers, c'est les arbres du témoignage, qui témoignent et qui ont reçu l'huile de l'onction. Puis alors, ce qui nous restait à voir pour aujourd'hui, puisque nous avons parlé du palmier aussi, et de tout ce que le palmier produit, du cèdre, et hier en particulier du térébinthe, nous avons dit que ce matin nous le consacrerions simplement au figuier qui restait là, hein, qui refuse aussi de dominer sur les armes, et à la vigne. Et si vous remarquez, si vous lisez un peu la parole, vous remarquez que très souvent, le figuier et la vigne sont cités ensemble. Je pense qu'il y a au moins 10 passages où vous trouvez dans l'Écriture le figuier et la vigne, qui représentent toujours le peuple d'Israël. Et c'est le symbole, la vigne et le figuier, en Israël, c'est le symbole de la jouissance paisible des biens et des productions de la terre. Quand il y a la paix, chacun vit sous son, dans sa vigne et sous son figuier. Vous avez cela au temps de Salomon. La paix régnait partout et chacun avait sa vigne et son figuier. Parce que sur le même terrain, on pouvait planter des figuiers et la vigne qui grimpait et qui donnait son fruit. Alors, la vigne et le figuier en Israël vont ensemble. Et je pourrais vous citer une foule de textes où vous retrouvez la vigne et le figuier. Et finalement, pendant le règne, chacun sera sous sa vigne et sous son figuier, parce que ce sera un temps de prospérité. Et alors, maintenant, en parlant du figuier, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, le figuier parle de sa douceur. De quelle douceur est-il l'emblème, le figuier? De la douceur de Christ, n'est-ce pas? Christ a été le véritable figuier. Il était doux et humble de cœur. Il a été le véritable olivier, il a été le véritable cyprès, le cyprès verdoyant, l'olivier verdoyant aussi, et il nous rend semblables à lui. Alors, si lui est l'olivier, nous devons être aussi des oliviers. Et si lui est le figuier, nous devons être aussi des oliviers. Et des figuiers. Si lui est le figuier, nous devons être des figuiers. Nous devons avoir sa douceur. Et c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, la douceur. Vous savez, moi j'ai peur des gens durs. Enfin, j'ai peur. Le Seigneur me donne sa protection. Mais ça me fait peur spirituellement. Quelqu'un qui est dur, un chrétien qui est dur, eh bien je ne suis pas tranquille à son égard. Parce que, voyez-vous, Jésus, il était doux. Et je l'ai dit souvent et je le répète, ne détruisez jamais le caractère de Christ en vous. Il était doux et humble de cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et alors, ayons ce caractère de Christ, la douceur. Mais je peux dire, même moi, je ne suis pas né avec la douceur. Mais le Seigneur peut te rendre doux. La douceur du figuier. Et le figuier, ce qui le caractérise, c'est qu'il est toujours vert. Là, je pourrais vous donner bien des passages, mais nous allons aller rapidement. Mais c'est un arbre qui a des grandes feuilles, n'est-ce pas, et qui est toujours vert. Et c'est le premier arbre qui est cité dans l'Écriture, hein, puisque on voit Adam et Ève ayant péché, on fait des ceintures avec des feuilles de figuier. Et forcément, s'ils ont fait des ceintures avec des feuilles de figuier, ils ont aussi mangé des figues, puisque le Seigneur leur avait dit, prenez cela comme nourriture. Et les figues sont des fruits excellents. Et on compte qu'il y a 600 espèces de figuiers. Vous rendez-vous compte, hein? Alors, je ne m'en vais pas vous les citer, mais c'est pour vous dire la variété qu'on peut trouver chez les figues. Alors, vous avez aussi des figues vertes. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, il est parlé de ces premières figues. Et puis, dans Apocalypse 6 aussi. Et alors, s'il y a le vent, eh bien, ces figues vertes peuvent facilement tomber. Il y a ce qu'on appelle des figues précoces. J'ai deux figuiers dans mon jardin à Nice, en France. Alors, j'ai bien vu ça. J'ai un figuier qui donne des figues rouges, plutôt précoces aussi, et puis l'autre qui donne les figues tardives, les figues vertes. Alors, vous avez aussi dans l'Écriture ces figues tardives et ces figues précoces. Des figues, j'espère que vous en avez déjà mangé, des fraîches. Vous avez déjà mangé des figues fraîches? C'est délicieux, les figues fraîches. Puis ensuite, alors, on les sèche. Alors, vous avez des figues séchées, mais vous les connaissez, alors, des paquets de figues. Et en Orient, eh bien, il y a tout un commerce de figues. Et là, vous pourriez trouver dans l'Écriture beaucoup d'exemples qui montrent que les figues étaient très appréciées. Par exemple, une femme intelligente qui a, au fond, empêché David de commettre des crimes, elle s'appelait comment? Abigail, qui veut dire la joie de son père. Quand cette femme qui était l'épouse d'un homme qui s'appelait Nabal, qui veut dire folie, fou, eh bien, ce Nabal n'a pas voulu recevoir les envoyés de David, qui étaient dans la peine, mais qui étaient pourchassés par Saül, et qui, avec ses hommes, avaient besoin de vivre. Et comme ils avaient rendu de grands services aux troupeaux de ce Nabal, qui était un grand propriétaire, ils faisaient la tente des brebis. Alors David dit à ses troupes, allez chez Nabal et demandez-lui de nous donner quelques vivres, parce que nous lui avons rendu ses services. Et Nabal dit, qui est David pour que je lui donne quelque chose, hein? Et alors, il les renvoie brutalement, de sorte que David, quand il apprend cela, eh bien, il veut monter avec ses troupes et tout tuer. Mais les serviteurs de Nabal sont allés parler à la femme de Nabal et lui ont rendu témoignage et lui ont dit, mais David nous a aidés et si tu n'agis pas, si tu ne fais rien, eh bien nous mourrons tous. Et alors la femme, très intelligente, elle s'empresse de préparer des pains. Et vous voyez au chapitre 25 du premier livre de Samuel, au verset 18e, Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, les raisins, oui, et puis 200 masses de figues. Donc, vous voyez que c'était un aliment qui était apprécié. 200 masses de figues, et elle les mit sur 2 ânes, et c'est comme ça qu'elle a sauvé, au fond, son mari et tous les serviteurs et sa propre vie, et qu'elle a empêché David de faire un crime. Donc, les figues étaient très appréciées, et du reste, le pays d'Israël, le Seigneur l'avait dit à Moïse, relisez le chapitre 8 du Deutéronome, c'est un pays d'oliviers, c'est un pays de raisins et de vignes, mais c'est un pays de figues, des figuiers et des grenadiers. Ils sont mentionnés. Et quand les espions sont allés visiter le pays, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Vous vous souvenez? La grappe de raisins qu'ils portaient sur une perche, hein, la grappe d'Escol, avec des figues et des grenades. N'est-ce pas? Voilà ce que nous lisons dans l'Écriture au sujet des figues. Et les figues n'étaient donc pas seulement une nourriture agréable, douce, mais aussi un médicament. Comment est-ce qu'on peut savoir cela? Qu'on employait les figues comme un remède, spécialement pour les abcès. On faisait des emplâtres de figues. Et un homme qui allait mourir, qui s'appelait Ézéchias, a supplié le Seigneur, il était malade à la mort, et il a supplié le Seigneur de lui donner encore un peu de temps pour vivre. Ésaïe était venu lui dire, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Et il prie, et Dieu dit à Ésaïe, retourne, et puis dis-lui, j'ajouterai 15 années à ta vie. Et il a eu en tout cas 15 années de vie encore, mais Ésaïe dit, faites-lui un emplâtre de figues. Et on a mis sur l'ulcère l'emplâtre de figues et il a été guéri. Donc, vous ne pouvez pas mettre de côté absolument la médecine, comme certains le voudraient, soi-disant parce qu'ils croient à la guérison divine. Nous aussi, nous croyons à la guérison divine. Mais ça n'empêche pas certains médicaments, certains remèdes. Vous le voyez dans l'Écriture, c'est vraiment équilibré. On a fait un emplâtre de figues à Ézéchias. Donc, vous voyez que beaucoup de fruits, beaucoup de ces arbres étaient employés aussi pour la médecine, soit l'huile, soit aussi le palmier. Eh bien, que Dieu vous donne de vous intéresser de plus en plus à ces arbres. Mais dans Jérémie, vous verrez qu'il a une vision, il voit 2 corbeilles de figues. Il voit une corbeille où Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il dit, je vois 2 corbeilles de figues. Et dans une corbeille, il y a de très bonnes figues, et puis dans l'autre, il y en a de très mauvaises. Et les figues représentent le peuple d'Israël. Les bonnes figues, c'était le peuple qui était en captivité et qui s'attendait au Seigneur pour une délivrance. C'était le peuple qui était à Babylone. Les Juifs qui étaient à Babylone étaient considérés comme de bonnes figues. Tandis que le peuple qui était encore libre à Jérusalem était considéré comme des mauvaises figues, des si mauvaises qu'on ne pouvait pas les manger. Est-ce que vous êtes une figue mangeable ou bien une figue mauvaise? Voilà, vous devez être aussi des figues. Nous sommes le fruit du figuier. Est-ce que nous sommes de bonnes figues ou bien est-ce que nous sommes des figues qui sont tellement mauvaises qu'on ne peut pas les manger? Il y a des chrétiens qui ne sont pas mangeables, hein, qui sont presque indigestes. Alors, je vous en prie, devenons de bonnes figues sur l'arbre et ayons cette douceur, la douceur du Christ. Et il y aurait beaucoup de choses, je vous les cite simplement en passant. Le Seigneur a beaucoup parlé des figues et il nous a donné de grandes leçons qui nous montrent la patience de Dieu. Voyez-vous, un figuier, il doit être soigné. Et vous, vous avez des enfants, hein? Il y a des petits figuiers ici. Alors, souvenez-vous que vous devez soigner le figuier pour qu'il porte des fruits. Vous avez cela dans un chapitre des Proverbes. J'aime beaucoup les Proverbes, vous le savez. Au chapitre 27e, il est dit au verset 18, « Celui qui soigne le figuier en mangera le fruit. » Vous mangerez le fruit si vous le soignez. Hein. Mais il faut savoir soigner un figuier pour pouvoir en manger les fruits. Alors, sachez soigner le figuier. Et c'est tellement vrai que Jésus a repris cette image dans le chapitre 13 de l'évangile de Luc. Vous avez là la parabole d'un figuier qui ne produit pas, et alors Jésus vient vers le jardinier, enfin il donne une parabole à ce sujet, Luc 13, verset 6, il dit aussi, Jésus, une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Vous voyez, planté dans sa vigne, donc je n'ai pas inventé ça quand je vous dis que dans une vigne, il y avait des figuier. En Israël, vous voyez ça. Dans la vigne, on pouvait mettre un figuier. Il avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint un jour pour y chercher du fruit. Parce que si on a un arbre, on compte qu'il produira du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Alors, quand un arbre ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il lui arrivera, on le coupe. Hein? Alors, le maître dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voilà, ça nous pose des questions. Hein? Est-ce que nous occupons la terre inutilement? Quelle est notre utilité pour le Seigneur? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Donc, il va travailler. Il se rend compte que, oui, c'est vrai, cet arbre ne donne pas. Eh bien, il a besoin d'être soigné. Mais ça va prendre du temps. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Et alors, donc, le figuier nous parle aussi de la patience de Dieu. Il ne détruit pas, même quand quelqu'un n'a pas produit du fruit à un moment donné, et ça nous arrive à tous peut-être, hein, on a besoin d'être soigné. On a la menace, mais dans son amour, Dieu est patient. Donc le figuier nous parle aussi de la patience du Seigneur qui accepte de ne pas couper le figuier, qui nous donne encore un temps pour nous repentir. Toujours, hein, il donne du temps pour se repentir. Mais maintenant, vous avez aussi quelque chose qui vous a souvent peut-être frappé, le figuier que Jésus a maudit dans la dernière semaine de sa vie. Vous avez cela dans les évangiles, je ne vais pas vous lire les textes, mais chapitre 21 de Matthieu, verset 19, comme en Marc 11, verset 13, le Seigneur a faim tout à coup. Hein. Un jour, il a eu faim. Il y a plusieurs fois, il est parlé de la faim du Seigneur. Et puis, il a voulu s'approcher, il a vu un figuier. Et puis, il n'y avait que des feuilles. Parce que, ce que je veux dire aussi, les feuilles du figuier, à un moment donné, elles tombent toutes. Hein. Et c'est toujours vert, mais ensuite, les feuilles tombent. Puis après, il y a des nouvelles feuilles qui viennent. Et avec les nouvelles feuilles aussi, il y a des petites figues, habituellement, les figues précoces. Mais alors, quand le Seigneur est allé vers le figuier, qu'il avait faim, il n'y avait que des feuilles, mais il n'y avait pas de figues. Mais il est dit, ce n'était pas la saison des figues, mais il y aurait dû en avoir quand même, comprenez-vous? Et si le Seigneur a maudit le figuier, c'est qu'il l'a pris comme exemple. Israël n'avait que la profession extérieure. Ils avaient des feuilles, c'est l'image d'une profession extérieure, mais il n'y avait pas de fruits. Il ne faut pas seulement avoir une belle apparence, hein, avoir des feuilles, il faut avoir du fruit. Il faut avoir du fruit. Mais en tout cas, ne jugez pas le Seigneur, il savait très bien ce qu'il faisait, même si ce n'était pas la saison, il devait quand même y avoir des figues, mais il n'y avait que des feuilles. Et Israël, eh bien, n'avait que des feuilles, l'apparence de la piété, mais il n'avait pas la puissance de la piété. Et cela, ça nous enseigne aussi. Vous y verrez non seulement une image d'Israël, mais de notre propre vie. Voilà pour le figuier, et gardez surtout cela, la douceur de Christ. Maintenant, il y a la vigne. Alors, la vigne, c'est aussi une très belle image d'Israël. Et il y a une foule de passages dans l'Ancien Testament qui nous parle de la vigne. Prenez par exemple le psaume 80 pour vous montrer que je n'invente rien, je ne dis rien de moi-même, que la vigne c'est Israël. Au psaume 80 verset 9, il dit ceci: tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Qu'est-ce qui était arraché de l'Égypte? Le peuple d'Israël. D'Arbidi, tu avais arraché d'Égypte un cep délicieux. Tu as chassé les nations, tu l'as planté et tu as fait place devant elle. Donc, la vigne qui était en Égypte, le peuple d'Israël, ou le cep qu'il a pris et qu'il a transplanté en Canaan, en chassant les nations, c'est donc le peuple d'Israël. Elle a jeté ses racines et rempli la terre. Il y a eu la bénédiction au temps des rois et spécialement de Salomon. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, souvenez-vous du règne de Salomon, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Ça, c'était le grand Israël du temps de Salomon, qui est comparé à une vigne. Alors, pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Parce que la vigne a été détruite par Nebuchadnezzar. Et alors là, les croyants juifs disent, pourquoi Seigneur, pourquoi? C'était une vigne que tu avais prise d'Égypte, tu en avais fait quelque chose de magnifique, et puis maintenant, elle est détruite. Elle est brûlée. Et je prends maintenant le passage bien connu de Ésaïe chapitre 5 et qui vous montre que la vigne peut représenter donc des hommes, peut représenter un peuple. C'est pour ça que je vous dis, les arbres nous représentent, hein. Que ce soit l'olivier, que ce soit le figuier, que ce soit le grenadier, ou que ce soit la vigne. Au chapitre 5 d'Ésaïe, il est parlé de cette vigne. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres. Vous voyez comment on soigne une vigne, comment on travaille pour la vigne. Et il y met un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. On ne devait moissonner. C'est une note là. Puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Un bon arbre doit produire de bons fruits. Alors, on espère que cette vigne produira du bon raisin. Mais elle a produit de mauvais raisins. Comme il y a aussi de mauvaises figues, il peut y avoir du mauvais raisin. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Et la vigne, c'est Israël. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Ben dites-vous un peu, qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait pour moi? Et qu'est-ce qu'il pourrait encore faire? Il est disposé à faire. Hein. On a vu qu'il est bien disposé à notre égard. Il nous aime d'un amour sincère. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez qu'il fasse pour vous? Le Seigneur est disposé à le faire. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Que c'est encourageant? Qu'est-ce que je peux faire encore pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vais dire maintenant ce que je vais faire de la vigne. Et alors, il montre les menaces sur la vigne, et c'est ce qui est arrivé à Israël. Mais si vous prenez encore un autre passage pour montrer les soins de Dieu au sujet de la vigne, parce que les arbres ont préféré les épines. Bon, eh bien, on connaît maintenant le règne des épines. Mais au chapitre 27 du livre d'Ésaïe, il a encore parlé d'une vigne et d'un champ. Verset 2 du chapitre 27 d'Ésaïe. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Qui est le gardien de chacun de vous? C'est le Seigneur, hein? Je l'arrose à chaque instant. Est-ce que nous connaissons cet arrosage? À chaque instant. Les soins du Seigneur à tout instant. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on l'attaque, nuit et jour, je la garde. Si le diable rôde autour de nous, nuit et jour, le Seigneur nous garde. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc, si vous êtes la vigne du Seigneur, vous pouvez être assuré que vous êtes gardé par lui. Il n'y a point en moi de colère. Il était plusieurs fois question de colère, n'est-ce pas? Notre frère a lu le chapitre 12 d'Ésaïe. Il était en colère contre moi, mais sa colère s'est détournée. Et dans Osée, il est dit qu'il oublie sa colère, n'est-ce pas? Il n'y a plus de colère. Il n'y a point en moi de colère. Mais si j'y trouve à combattre des ronces et des épines, parce qu'il peut y avoir encore dans notre vie des ronces et des épines, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va les combattre? Est-ce que nous allons essayer d'enlever nous-mêmes les épines? Nous nous blesserons. Si vous essayez de vous améliorer par vos propres forces, vous vous blesserez davantage. Et ça ira de mal en pis. Laissez-le faire. C'est lui qui marchera contre les épines et les ronces, et je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, etc., qu'on ne fasse la paix avec moi. Le Seigneur est disposé pour nous. Il est disposé pour sa vigne. Et je pourrais aussi vous citer Osée 5 que j'ai donné à un de nos frères hier au sujet d'une certaine épreuve. Eh bien, dans Osée 2, verset 14, il y a un très beau verset au sujet de la vigne. Il est dit, et ça nous explique bien des épreuves, verset 16 du chapitre 2 d'Osée. Voici, moi, je veux la tirer, c'est toujours d'Israël qu'il est question, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Il parle de la brebis. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Quelquefois, Dieu nous amène au désert, on passe par une grande épreuve, et puis on se dit, mais Dieu m'a abandonné. Mais non, mais il est là au désert, avec nous. Hein. Et il est dit, de ce désert où nous nous trouvons, je lui donnerai ses vignes. Et les vignes, c'est le symbole de la fertilité et de la joie. Hein. La vigne donne le vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme on l'a lu dans le chapitre 9 des juges. Le vin réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Pas, c'est pas pour vous encourager à boire le tonneau, hein, mais il y a un équilibre. Le vin réjouit le cœur de Dieu et aussi des hommes. Et souvenez-vous de ce que Jésus a fait à Cana. Eh bien, que la grâce du Seigneur soit sur nous, et que même dans la vallée du trouble par laquelle vous passez, vous puissiez savoir qu'au bout de cette vallée, il y a une porte d'espérance. Nos troubles ne nous amènent jamais à un cul-de-sac, mais toujours à une porte, et c'est le Seigneur qui est la porte. Je suis la porte. Il y aura une issue, il y aura une sortie. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Chapitre 10 de la première aux Corinthiens, verset 13, et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Mais vous voyez, pendant que vous êtes dans l'épreuve, ça nous paraît dur, on dit, mais comment est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné, ou bien alors on se culpabilise, et c'est toujours Satan qui est l'accusateur, qui voudrait nous couler pendant ce temps-là. Restez ferme, confiants dans la parole, le Seigneur ne sera pas en retard. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de tenir le dernier quart d'heure. C'est de tenir le dernier quart d'heure. Une sentinelle le sait aussi, parce que là, on risque de s'assoupir. Eh bien, comptez sur le Seigneur qui attend le matin. Oui, les sentinelles attendent le matin. Elles comptent sur le Seigneur. Et nous voulons compter sur lui. Et alors, je terminerai par l'évangile de Jean, au chapitre 15, où le Seigneur nous dit, alors, moi, je suis le vrai cèpe. Je suis la vraie vigne. Parce que jusque-là, quand vous lisez l'Ancien Testament, Israël croyait qu'ils étaient, eux, la vigne du Seigneur. Et pourtant, ils avaient produit de mauvais raisins. Alors, le Seigneur enseigne que c'est lui qui est la vraie vigne. Moi, je suis le vrai cèpe. C'est pas le cèpe qui a été pris d'Égypte. C'est lui qui est le vrai cèpe. C'est lui qui est la vraie vigne. Et vous êtes les sarments. Et puis, le Père est le vigneron. Et alors, vous avez des enseignements extrêmement précieux dans ce chapitre 15 et qui nous montrent que la vigne, eh bien, doit produire du fruit. Je suis le vrai cèpe, c'est-à-dire, c'est pas Israël qu'elle sait, mais c'est Jésus. C'est lui, le Fils de Dieu. Et mon Père est le vigneron, c'est lui qui va s'occuper de sa vigne. Tout sarment en moi, donc dans le cep, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et ça, Judas en a fait l'expérience. Hein. Il a été avec Jésus. Ça, c'est pas une question de perdre son salut. Mais le salut, il est pour tous les hommes. Mais si vous ne voulez pas laisser la vie du Seigneur se manifester en vous, ben, qu'est-ce qu'il arrivera? Vous serez retranché. Vous pouvez avoir la profession chrétienne, vous pouvez avoir été baptisé. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est de laisser la vie du Seigneur couler dans le sarment. Je suis le vrai cèpe. Et si nous sommes vraiment en Christ, eh bien, nous porterons du fruit. Mais là, quand il y a du fruit, les disciples en ont fait l'expérience, ils ont dû être émondés. Hein. L'apôtre Pierre a dû aussi être émondé. Qu'est-ce que c'est émondé? Eh bien, il coupe les branches gourmandes. S'il y a du fruit en toi, tu risques d'avoir des épreuves. Mais ça vaut mieux que tu aies du fruit et que tu aies des épreuves, que tu n'as pas de fruits, et d'être retranché. Mais si un homme porte un peu de fruits, vous pouvez être sûr qu'il a des épreuves. Alors ça nous réconcilie, automatiquement, parce que le Seigneur est ambitieux pour nous. Alors tu portes du fruit, eh bien le Seigneur va permettre peut-être certaines épreuves, il va couper certaines branches, non pas pour qu'il y ait moins de fruits, mais pour qu'il y ait plus de fruits. Et alors, c'est là que vous avez toute cette gradation. Celui qui porte, et il n'y a d'abord pas de fruits, mais alors il est retranché. Mais celui qui porte du fruit, il est demandé pour qu'il porte plus de fruits. Et puis après, vous verrez qu'il en porte beaucoup de fruits. Celui qui porte beaucoup de fruits, eh bien, il peut demander tout ce qu'il veut au Seigneur. Et puis ensuite, il y a encore un degré de plus du fruit qui demeure. Jusqu'au verset 16. Hein. Pas de fruits, mais après, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, mais pas seulement une grande promesse de beaucoup de fruits, mais du fruit qui demeure. Chapitre 15, verset 16. Non pas seulement une promesse de fruits, mais du fruit qui demeure. Eh bien, voilà ce que nous avons au sujet de la vigne. J'aurais pu vous parler aussi de l'enseignement que le Seigneur donne au sujet aussi du figuier. Quand le figuier fleurit, ou quand le figuier reverdit, vous savez que l'été est proche, et quand vous verrez ces choses qui commencent, eh bien, vous savez que le Seigneur est à la porte. Donc, tous ces arbres, que ce soit le figuier ou que ce soit la vigne, ont des enseignements pour nous, et l'heure est venue, il faut que je termine, et je voudrais simplement vous lire un verset qui clôture tout cela, en vous montrant combien nous devons être bibliques et veiller à ce que nous faisons. C'est dans le chapitre 19 du Lévitique que je vous amène à ces versets 23 du chapitre 19 du Lévitique, puisque nous avons parlé des arbres. Quand vous serez entrés dans le pays, et j'espère que nous sommes tous entrés dans le pays, déjà, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis, c'est-à-dire, vous ne les prendrez pas tout de suite pour vous. Vous saurez patienter, vous saurez attendre. Et ça, on ne sait pas attendre. Quand on est prédicateur de l'évangile, on voudrait tout de suite des conversions. J'ai prêché aujourd'hui, je veux voir mes conversions. Ben non, le Seigneur me dit que je dois regarder les fruits d'abord comme un circoncis. Je dois savoir attendre. Je suis persuadé que le Seigneur donnera du fruit. Mais je ne m'en vais pas les prendre tout de suite, moi. Vous les regarderez comme un circoncis, c'est-à-dire, c'est pas pour vous. Laissez-moi faire mon travail, dit Dieu. Vous les regarderez comme un circoncis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. Mais moi, je ne veux pas attendre 3 ans. Alors, mon ministère, on me demande, comment est-ce que vous avez eu de conversion, là? Vous êtes allé à Hall pendant 3 jours, puis comment est-ce que vous avez eu de conversion? J'ai semé, j'ai labouré, n'est-ce pas? Mais moi, je ne peux pas vous dire. Je m'attends au Seigneur. Moi, je ne suis pas un moissonneur aujourd'hui. Je suis un semeur, je travaille, c'est tout. Mais je sais qu'il y aura un jour du fruit. On n'en mangera point. Vous voyez, on veut tout de suite manger nos fruits. Non, on n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel. Oh, attendez que cela, qu'il soit consacré au Seigneur. Vous voyez comme c'est beau la parole. Tout nous l'enseigne. Mais il ne faut pas que ça reste dans ces pages ou les versets inconnus, mais qu'on les lue et puis qu'on se le répète. Hein. Ensuite, après la 4e année, il faut que ça soit consacré d'abord à l'Éternel. Et puis, ensuite, alors, vous les consacrerez à l'Éternel au milieu de réjouissance. Alors là, on pourrait lire le chapitre 23 du Lévitique où il est dit que comment on peut se réjouir avec tous les fruits que le Seigneur donne. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, il y aura des fruits, mais laissez faire le Seigneur. C'est le Seigneur qui opère. Il est le vigneron. Alors, est-ce que nous allons nous laisser faire par lui? Est-ce que il est le divin potier? Est-ce que nous allons nous laisser façonner par lui? Il est le divin vigneron. Est-ce que nous allons nous laisser émonder par lui? Il est le divin fondeur. Est-ce que nous allons nous laisser purifier par le feu de l'épreuve? Il est le divin jardinier. Est-ce que nous allons nous laisser transplanter l'arbre là où il le veut, peu importe où nous habitons, que ce soit le Seigneur qui s'occupe de nous et nous serons bénis. Bien voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre à vos besoins. Le Seigneur avait mis sur mon cœur de vous parler des arbres. Eh bien, souvenez-vous que nous pouvons apprendre beaucoup de choses par les arbres et que le Saint-Esprit vous permet de repasser toutes ces choses dans vos cœurs. Dieu notre Père, nous voulons te bénir parce que ce ne sont pas les épines qui vont régner sur nous. Même si nous avons péché et que nous sommes auteurs des épines et des rentes qui croissent maintenant sur le sol à cause de nos manquements, tu nous dis que toi-même, tu veux détruire ces épines. Et ce n'est pas les épines qui régneront sur nos vies, mais c'est toi, ô Jésus. Et nous savons que pour que les épines ne règnent pas sur nos vies, tu as accepté qu'elles soient sur ta tête. Tu t'es manifesté à Moïse dans un buisson d'épines, puis ensuite, on a vu les épines sur ta propre tête. Nous voulons te célébrer parce que tu ne nous as pas consumés. Même si nous étions par nature des épines, morts dans nos fautes et dans nos péchés, mais tu as fait une œuvre qui nous a régénérés.